Chapitre 8. Les gendarmes. Il nous fallut rejoindre la troupe de messieurs et de dames qui revenaient vers le cours supérieur par les rues obscures. Cette fois, nous comprenions tout. Cette grande silhouette blanche que Maud avait vue le dernier soir de la fête filée entre les arbres, c'était Ganache qui avait recueilli le fiancé désespéré et s'était enfui avec lui. L'autre avait accepté cette existence sauvage, pleine de risques, de jeux et d'aventures. Il lui avait semblé recommencer son enfance. Franz de Galais nous avait jusqu'ici caché son nom, et il avait faim d'ignorer le chemin du domaine, par peur sans doute d'être forcé de rentrer chez ses parents. Mais pourquoi, ce soir-là, lui avait-il plus soudain de se faire connaître à nous et de nous laisser deviner la vérité tout entière? Que de projets le grand Maulne ne fit-il pas, tandis que la troupe des spectateurs s'écoulait lentement à travers le bourg? Il décida que dès le lendemain matin, qui était un jeudi, il irait trouver Franz. Et tous les deux, ils partiraient pour là-bas. Quel voyage sur la route mouillée! Franz expliquerait tout. Tout s'arrangeait et la merveilleuse aventure allait reprendre là où elle s'était interrompue. Quant à moi, je marchais dans l'obscurité avec un gonflement de cœur indéfinissable. Tout se mêlait pour contribuer à ma joie, depuis le faible plaisir que donnait l'attente du jeudi jusqu'à la très grande découverte que nous venions de faire, jusqu'à la très grande chance qui nous était échue. Et je me souviens que, dans ma soudaine générosité de cœur, je m'approchais de la plus laide des filles du notaire à qui l'on m'imposait parfois le supplice d'offrir mon bras, et spontanément je lui donnais la main. Amers souvenirs, vains espoirs écrasés. Le lendemain de 8 heures, lorsque nous débouchâmes tous les deux sur la place de l'église avec nos souliers bien cirés, nos plaques de ceinturon bien astiquées et nos casquettes neuves, Maulne, qui jusque-là se retenait de sourire en me regardant, poussa un cri et s'élança vers la place vide. Sur l'emplacement de la baraque et des voitures, il n'y avait plus qu'un pot cassé et des chiffons. Les bohémiens étaient partis. Un petit vent qui nous parut glacé soufflait. Il me semblait qu'à chaque pas, nous allions buter sur le sol caillouteux et dur de la place et que nous allions tomber. Maulne, affolé, fit 2 fois le mouvement de s'élancer, d'abord sur la route du Vieux-Nancier, puis sur la route de Saint-Loup-des-Bois. Il mit sa main au-dessus de ses yeux, espérant un instant que nos gens venaient seulement de partir. Mais que faire? 10 traces de voitures s'embrouillaient sur la place, puis s'effaçait sur la route dure. Il fallut rester là, inerte. Et tandis que nous revenions à travers le village où la matinée du jeudi commençait, 4 gendarmes à cheval, avertis par Delouche la veille au soir, débouchèrent au galop sur la place et s'éparpillèrent à travers les rues pour garder toutes les issues comme des dragons qui font la reconnaissance d'un village. Mais il était trop tard. Ganache, le voleur de poulet, avait fui avec son compagnon. Les gendarmes ne retrouvèrent personne, ni lui, ni ceux-là qui chargeaient dans des voitures les chapons qui l'étranglaient. Prévenu à temps par le mot imprudent de Jasmin, Franz avait dû comprendre soudain de quel métier son compagnon et lui vivaient quand la caisse de la roulotte était vide. Plein de honte et de fureur, il avait arrêté aussitôt un itinéraire et décidé de prendre le roue du champ avant l'arrivée des gendarmes. Mais ne craignant plus désormais qu'on tentât de le ramener au domaine de son père, il avait voulu se montrer à nous sans bandage avant de disparaître. Un seul point resta toujours obscur. Comment Ganache avait-il pu à la fois dévaliser les basses-cours et quérir la bonne sœur pour la fièvre de son ami? Mais n'était-ce pas là toute l'histoire du pauvre diable? Voleur et cheminot d'un côté, bonne créature de l'autre. Chapitre 9. à la recherche du sentier perdu. Comme nous rentrions, le soleil dissipait sa légère brume du matin. Les ménagères sur le seuil des maisons secouaient leurs tapis ou bavardaient, et dans les champs et les bois, aux portes du faubourg, commençait la plus radieuse matinée de printemps qui soit restée dans ma mémoire. Tous les grands élèves du cours devaient arriver vers 8 heures, ce jeudi-là, pour préparer durant la matinée les uns le certificat d'études supérieures, les autres le concours de l'école normale. Lorsque nous arrivâmes tous les deux, Maune, plein d'un regret et d'une agitation qui ne lui permettait pas de rester immobile, moi, très abattu, l'école était vide. Un rayon de frais soleil glissait sur la poussière d'un banc vermoulu et sur le vernis écaillé d'un planisphère. Comment rester là, devant un livre, à ruminer notre déception, tandis que tout nous appelait au dehors ? Les poursuites des oiseaux dans les branches près des fenêtres, la fuite des autres élèves vers les prés et les bois, et surtout le fiévreux désir d'essayer au plus vite l'itinéraire incomplet vérifié par le bohémien, dernière ressource de notre sac presque vide, dernière clé du trousseau, après avoir essayé toutes les autres. Cela était au-dessus de nos forces. Maul marchait de long en large, allait auprès des fenêtres, regardait dans le jardin, puis revenait et regardait vers le bourg, comme s'il eût attendu quelqu'un qui ne viendrait certainement pas. J'ai l'idée, me dit-il enfin, j'ai l'idée que ce n'est peut-être pas aussi loin que nous l'imaginions. Franz a supprimé sur mon plan toute une portion de la route que j'avais indiquée. Cela veut dire peut-être que la jument a fait pendant mon sommeil un long détour inutile. J'étais à moitié assis sur le coin d'une grande table, un pied par terre, l'autre ballant, l'air découragé et désœuvré, la tête basse. Pourtant, dis-je au retour dans la berline, ton voyage a duré toute la nuit. Nous étions partis à minuit, répondit-il vivement. On m'a déposé à 4 heures du matin, à environ 6 kilomètres à l'ouest de Sainte-Agathe, tandis que j'étais parti par la route de la gare à l'est. Il faut donc compter ces 6 kilomètres en moins entre Sainte-Agathe et le pays perdu. Vraiment, il me semble qu'en sortant du bois des communaux, on ne doit pas être à plus de 2 lieues de ce que nous cherchons. Ben, ce sont précisément ces 2 lieues-là qui manquent sur ta carte. C'est vrai, et la sortie du bois est bien à 1 lieue et demie d'ici, mais pour un bon marcheur, cela peut se faire en une matinée. À cet instant, Moucheboeuf arriva. Il avait une tendance irritante à se faire passer pour bon élève, non pas en travaillant mieux que les autres, mais en se signalant dans des circonstances comme celle-ci. « Je savais bien, dit-il triomphant, ne trouvez que vous deux. Tous les autres sont partis pour le bois des communaux, en tête Jasmin de Louche, qui connaît les nids. » Et voulant faire le bon apôtre, il commença à raconter tout ce qu'ils avaient dit pour narguer le cours, M. Serrel et nous en décidant cette expédition. « S'ils sont au bois, je les verrai sans doute en passant, dit Maune, car je m'en vais aussi. Je serai de retour vers 12h30. » Moucheboeuf resta ébahi. Ne viens-tu pas ? Me demanda Augustin, s'arrêtant une seconde sur le seuil de la porte entrouverte. Ce qui fit entrer dans la pièce grise, en une bouffée d'air piédie par le soleil, un fouillis de cris d'appel de pépiment, le bruit d'un seau sur la margelle du puits et le claquement d'un fouet au loin. Non, dis-je, bien que la tentation fût forte. « Je ne puis pas, à cause de M. Serrel. Mais hâte-toi, je t'attendrai avec impatience. » Il fit un geste vague et partit très vite, plein d'espoir. Lorsque M. Serrel arriva vers 10 heures, il avait quitté sa veste d'alpaga noire, revêtu un paletot de pêcheur aux vastes poches boutonnées, un chapeau de paille et de courtes jambières vernies pour serrer le bas de son pantalon. Je crois bien qu'il ne fut guère surpris de ne trouver personne. Il ne voulut pas entendre Moucheboeuf qui lui répéta trois fois que les gars avaient dit « S'il a besoin de nous, qu'il vienne donc nous chercher !» Et il commanda « Serrez vos affaires, prenez vos casquettes et nous allons les dénicher à notre tour. Pourras-tu marcher jusque-là, François ?» J'affirmai que oui, et nous partîmes. Il fut entendu que Moucheboeuf conduirait M. Sorel et lui servirait d'appôt. C'est-à-dire que, connaissant les futaies où se trouvaient les dénicheurs, il devait de temps à autre crier à toute voix « Hola, hola, Giraudoux, Delouche, où êtes-vous? Y en a-t-il? Vous en avez trouvé ?» Quant à moi, je fus chargé, à mon vif plaisir, de suivre la lisière est du bois pour le cas où les écoliers fugitifs chercheraient à s'échapper de ce côté. Or, dans le plan rectifié par le bohémien et que nous avions maintes fois étudié avec Moulin, il semblait qu'un chemin à un trait, un chemin de terre, partît de cette lisière du bois pour aller dans la direction du domaine. Si j'allais le découvrir ce matin! Je commençai à me persuader que, avant midi, je me trouverais sur le chemin du manoir perdu. La merveilleuse promenade! Dès que nous eûmes passé le glacis et contourné le moulin, je quittai mes deux compagnons, M. Sorel, dont on eût dit qu'il partait en guerre, je crois bien qu'il avait mis dans sa poche un vieux pistolet, et ce traître de Moucheboeuf. Prenant un chemin de traverse, j'arrivai bientôt à la lisière du bois, seul à travers la campagne pour la première fois de ma vie comme une patrouille que son caporal a perdue. Me voici, j'imagine, près de ce bonheur mystérieux que Moon a entrevu un jour. Toute la matinée est à moi pour explorer la lisière du bois, l'endroit le plus frais et le plus caché du pays, tandis que mon grand frère aussi est parti à la découverte. C'est comme un ancien lit de ruisseau. Je passe sous les basses branches d'arbres, dont je ne sais pas le nom, mais qui doivent être des aunes. J'ai sauté tout à l'heure un échalier au bout de la sente, et je me suis trouvé dans cette grande voie d'herbe verte qui coule sous les feuilles, foulant par endroits les orties, écrasant les hautes valérianes. Parfois, mon pied se pose durant quelques pas sur un banc de sable fin, et dans le silence, j'entends un oiseau. Enfin, je m'imagine que c'est un rossignol, mais sans doute je me trompe, puisqu'il ne chante que le soir. Un oiseau qui répète obstinément la même phrase. Voix de la matinée, paroles dites sous l'ombrage, invitation délicieuse au voyage entre les zones. Invisible, entêté, il semble m'accompagner sous la feuillée. Pour la première fois, me voilà moi aussi sur le chemin de l'aventure. Ce ne sont plus des coquilles abandonnées par les eaux que je cherche sous la direction de M. Sorel, ni les orchis que le maître d'école ne connaît même pas, ni même, comme cela nous arrivait souvent dans le champ du Père Martin, cette fontaine profonde et tarie, couverte d'un grillage obstrué. Enfouie sous tant d'herbes folles qu'il fallait chaque fois plus de temps pour la retrouver. Je cherche quelque chose de plus mystérieux encore. C'est le passage dont il est question dans les livres, l'ancien chemin, celui dont le prince, harassé de fatigue, n'a pu trouver l'entrée. Cela se découvre à l'heure la plus perdue de la matinée, quand on a depuis longtemps oublié qu'il va être 11 heures au midi. Et soudain, en écartant dans le feuillage profond les branches, avec ce geste hésitant des mains à hauteur du visage inégalement écarté, on l'aperçoit comme une longue avenue sombre dont la sortie est un rond de lumière tout petit. Mais, tandis que j'espère et m'enivre ainsi, voici que brusquement je débouche dans une sorte de clairière qui se trouve être tout simplement un pré. je suis arrivé, sans y penser, à l'extrémité des communaux que j'avais toujours imaginés infiniment loin. Et voici à ma droite, entre des piles de bois, toutes bourdonnantes dans l'ombre, la maison du garde. Deux paires de bas sèchent sur l'appui de la fenêtre. Les années passées, lorsque nous arrivions à l'entrée du bois, nous disions toujours, en montrant un point de lumière tout au bout de l'immense allée noire, « Ah, c'est là-bas la maison du garde, la maison de Baladier !» Mais jamais nous n'avions poussé jusque-là. Nous entendions dire quelquefois, comme s'il se fût agi d'une expédition extraordinaire, « Il a été jusqu'à la maison du garde !» Cette fois, je suis allé jusqu'à la maison de Baladier et je n'ai rien trouvé. Je commençais à souffrir de ma jambe fatiguée et de la chaleur que je n'avais pas sentie jusque-là. Je craignais de faire tout seul le chemin du retour lorsque j'entendis près de moi la peau de M. Sorel, la voix de Mouchebeuf, puis d'autres voix qui m'appelaient. Il y avait là une troupe de six grands gamins où seul le traître Mouchebeuf avait l'air triomphant. C'était Giraudat, Auberger, Delage et d'autres. Grâce à la peau, on avait pris les uns grimpés dans un merisier isolé au milieu d'une clairière, les autres en train de dénicher des pivers. Giraudat, le nigaud aux yeux bouffis à la blouse crasseuse, avait caché les petits dans son estomac, entre sa chemise et sa peau. Deux de leurs compagnons s'étaient enfuis à l'approche de M. Sorel. Ce devait être Delouche et le petit Coffin. Ils avaient d'abord répondu par des plaisanteries à l'adresse de Bouchevache, que répétaient les échos des bois, et celui-ci, maladroitement, se croyant sûr de son affaire, avait répondu vexé. « Oh, vous n'avez qu'à descendre, vous savez, M. Sorel est là !» Alors, tout s'était tu subitement. Ça avait été une fuite silencieuse à travers le bois. Et comme ils le connaissaient à fond, il ne fallait pas songer à les rejoindre. On ne savait pas non plus où le grand môle était passé. On n'avait pas entendu sa voix, et l'on dut renoncer à poursuivre les recherches. Il était plus de midi lorsque nous reprîmes la route de Sainte-Agathe, lentement, la tête basse, fatigués, terreux. À la sortie du bois, lorsque nous eûmes frotté et secoué la boue de nos souliers sur la route sèche, le soleil commença de frapper dur. Déjà, ce n'était plus ce matin de printemps, si frais et si luisant. Les bruits de l'après-midi avaient commencé. De loin en loin, un coq criait, cri désolé, dans les fermes désertes aux alentours de la route. À la descente du glacis, nous nous arrêtâmes un instant pour causer avec des ouvriers des champs qui avaient repris leur travail après le déjeuner. Ils étaient accoudés à la barrière et M. Sorel leur disait « Oh, le fameux galopin, tenez, regardez, Giraudat, il a mis les oisillons dans sa chemise. Ils ont fait la danse qu'ils ont voulu. Ah, oh, c'est du propre !» Il me semblait que c'était de ma débâcle aussi que les ouvriers riaient. Ils riaient en hochant la tête, mais ils ne donnaient pas tout à fait tort aux jeunes gars qu'ils connaissaient bien. Ils nous confièrent même, lorsque M. Sorel eut repris la tête de la colonne, « Il y en a un autre qui est passé, un grand, là, vous savez bien. Il a dû rencontrer en revenant la voiture des granges et on l'a fait monter. Il est descendu plein de terre, tout déchiré, ici. » À l'entrée du chemin des Granges. Nous lui avons dit que nous vous avions vu passer ce matin, mais que vous n'étiez pas de retour encore. Et il a continué tout doucement sa route vers Sainte-Agathe. En effet, assis sur une pile du pont des Glacis, nous attendait le grand môle, l'air brisé de fatigue. Aux questions de M. Sorel, il répondit que lui aussi était parti à la recherche des écoliers buissonniers. Et à celle que je lui posais tout bas, il dit seulement, en hochant la tête avec découragement, « Non, rien, rien qui ressemble à ça. » Après déjeuner, dans la classe fermée, noire et vide, au milieu du pays radieux, il s'assit à l'une des grandes tables, et la tête dans les bras, il dormit longtemps d'un sommeil triste et lourd. Vers le soir, après un long instant de réflexion, comme s'il venait de prendre une décision importante, il écrivit une lettre à sa mère. Et c'est tout ce que je me rappelle de cette morne fin d'un grand jour de défaite. Chapitre 10. La lessive. Nous avions escompté trop tôt la venue du printemps. Le lundi soir, nous voulûmes faire nos devoirs aussitôt après 4 heures, comme en plein été, et pour y voir plus clair, nous sortîmes 2 grandes tables dans la cour. Mais le temps s'assombrit tout de suite. Une goutte de pluie tomba sur un cahier, nous rentrâmes en rate. Et de la grande salle obscure, par les larges fenêtres, nous regardions silencieusement dans le ciel gris la déroute des nuages. Alors Moon, qui regardait comme nous, la main sur une poignée de croisée, ne put s'empêcher de dire, comme s'il eût été fâché de sentir monter en lui tant de regrets. Ah, ils filaient autrement que cela, les nuages, lorsque j'étais sur la route, dans la voiture de la belle étoile. Sur quelle route? Demanda Jasmin. Mais Maul ne répondit pas. Moi, dis-je, pour faire diversion, j'aurais aimé voyager comme cela en voiture par la pluie battante, abrité sous un grand parapluie. Et lire tout le long du chemin comme dans une maison, ajouta un autre. Il ne pleuvait pas, et je n'avais pas envie de lire, répondit Maul. Je ne pensais qu'à regarder le pays. Mais lorsque Girona, à son tour, demanda de quel pays il s'agissait, Maune de nouveau resta muet. Et Jasmin dit, « Ah, je sais, toujours la fameuse aventure !» Il avait dit ces mots d'un ton conciliant et important, comme s'il eût été lui-même un peu dans le secret. Ce fut peine perdue. Ses avances lui restèrent pour compte. Et comme la nuit tombait, chacun s'en fut au galop, la blouse relevée sur la tête, sous la froide averse. Jusqu'au jeudi suivant, le temps resta à la pluie, et ce jeudi-là fut plus triste encore que le précédent. Toute la campagne était baignée dans une sorte de brume glacée, comme au plus mauvais jour de l'hiver. Millie, trompée par le beau soleil de l'autre semaine, avait fait faire la lessive, mais il ne fallait pas songer à mettre sécher le linge sur les haies du jardin, ni même sur des cordes dans le grenier, tant l'air était humide et froid. En discutant avec M. Sorel, il lui vint l'idée d'étendre sa lessive dans les classes, puisque c'était jeudi, et de chauffer le poêle à blanc. Pour économiser les feux de la cuisine et de la salle à manger, on ferait cuire les repas sur le poêle, et nous nous tiendrions toute la journée dans la grande salle du cours. Au premier instant, oh, j'étais si jeune encore, je considérais cette nouveauté comme une fête. Morne fête. Toute la chaleur du poêle était prise par la lessive et il faisait grand froid. Dans la cour tombait interminablement et mollement une petite pluie d'hiver. C'est là pourtant que dès 9 heures du matin, dévoré d'ennui, je retrouvais le grand Maune. Par les barreaux du grand portail où nous regardâmes au haut du bourg, sur les 4 routes, le cortège d'un enterrement venu du fond de la campagne. Le cercueil, amené dans une charrette à bœufs, était déchargé et posé sur une dalle au pied de la grande croix où le boucher avait aperçu naguère les sentinelles du bohémien. Où était-il maintenant, le jeune capitaine qui si bien menait l'abordage? Le curé et les chantres vinrent comme c'était l'usage au devant du cercueil posé là, et les tristes chants arrivaient jusqu'à nous. Ce serait là, nous le savions, le seul spectacle de la journée qui s'écoulerait tout entière comme une eau jaunie dans un caniveau. Et maintenant, dit Maune soudain, je vais préparer mon bagage. Apprends-le, Sorel. J'ai écrit à ma mère jeudi dernier pour lui demander de finir mes études à Paris. C'est aujourd'hui que je pars. Il continuait à regarder vers le bourg, les mains appuyées au barreau à la hauteur de sa tête. Inutile de demander si sa mère, qui était riche et lui passait toutes ses volontés, lui avait passé celle-là. Inutile aussi de demander pourquoi soudainement il désirait s'en aller à Paris. Mais il y avait en lui, certainement, le regret et la crainte de quitter ce cher pays de Sainte-Agathe d'où il était parti pour son aventure. Quant à moi, je sentais monter une désolation violente que je n'avais pas sentie d'abord. « Pâques approche, » dit-il, pour m'expliquer avec un soupir. « Dès que tu l'auras trouvé là-bas, tu m'écriras, n'est-ce pas ? » demandai-je. « C'est promis, bien sûr. N'es-tu pas mon compagnon et mon frère ?» Et il me posa la main sur l'épaule. Peu à peu, je comprenais que c'était bien fini, puisqu'il voulait terminer ses études à Paris. Jamais plus je n'aurais avec moi mon grand camarade. Il n'y avait d'espoir pour nous réunir qu'en cette maison de Paris où devait se retrouver la trace de l'aventure perdue. Mais de voir Maune lui-même si triste, quel pauvre espoir c'était là pour moi. Mes parents furent avertis. M. Sorel se montra très étonné, mais se rendit bien vite aux raisons d'Augustin. Milly, femme d'intérieur, se désola surtout à la pensée que la mère de Maune verrait notre maison dans un désordre inaccoutumé. La malle, hélas, fut bientôt faite. Nous cherchâmes sous l'escalier ses souliers des dimanches, dans l'armoire un peu de linge, puis ses papiers, ses livres d'école, enfin tout ce qu'un jeune homme de 18 ans possède au monde. À midi, Madame Maune arrivait avec sa voiture. Elle déjeuna au café Daniel en compagnie d'Augustin et l'emmena sans donner presque aucune explication dès que le cheval fut affrété et attelé. Sur le seuil, nous leur dîmes au revoir et la voiture disparut au tournant des quatre routes. Milly frotta ses souliers devant la porte et rentra dans la froide salle à manger et remettre en ordre ce qui avait été dérangé. Quant à moi, je me trouvais pour la première fois depuis de longs mois, seul en face d'une longue soirée de jeudi, avec l'impression que dans cette vieille voiture, mon adolescence venait de s'en aller pour toujours.